France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Stéphane Rosès.
Elsa Boublil.
Notre héritage n'est précédé d'aucun testament.
René Char. C'est sur cette danse allemande en si mineur opus posthume numéro 5 de Franz Schubert, interprété par Vanessa Wagner, que nous vous accueillons, Stéphane Rosès, politologue, président de la société de conseil CAP, enseignant à Sciences Po et HEC, ancien directeur général de l'Institut CSA et ancien militant d'extrême gauche, sondeur, tout ça à la fois. Bonjour.
Bonjour. Oui, avec l'âge, évidemment, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses dans la vie, avec des moments apparemment différent, mais au fond sans doute avec une continuité, dont la musique m'a accompagné depuis ma jeunesse en pension, et elle-même, mes goûts musicaux, les interprétations ont pu légèrement évoluer dans le temps.
Oui, alors vous le dites, on vous a souvent entendu, on vous a souvent lu, associer vraiment votre métier à la musique. La musique a toujours été là.
Oui, la musique a toujours été là parce que, au fond, m'intéressant professionnellement, nécessairement, à ce qu'est un peuple, et notamment le peuple français, la musique, pour moi, c'est vraiment l'universel. C'est-à-dire que c'est ce qui peut rassembler des personnes de cultures si différentes, et ce sont les questions culturelles qui m'intéressent en dernière instance. Et donc, effectivement, la musique est quelque chose qui relie les personnes, alors même qu'elles peuvent être socialement, ethniquement, politiquement, socialement situées très différemment.
Alors cette phrase, justement, j'ai choisi une œuvre posthume de Schubert pour reprendre cette phrase de René Char, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament », que vous avez dit en ouverture de l'émission. Elle est, pour moi, à la fois pleine de sens et de non-sens. Elle est compliquée, cette phrase.
Elle est compliquée parce que ce que je pense, c'est que, au fond, elle dit tout à fait ce que l'on est. Or, c'est toujours très compliqué de comprendre ce que l'on est. C'est en général les autres qui nous permettent, par effet miroir, de comprendre ce que l'on est. Et au fond, c'est vraiment l'imaginaire français. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un « nous » qui veut parle bien d'un collectif, et ce « nous », me semble-t-il, est français, en ce que, quand nous arrivons dans une société, nous sommes précédés de quelque chose, nous sommes précédés d'un environnement culturel, social, et donc nous n'arrivons pas comme ça, vierges, en construction, même si nous, Français, nous voulons sans cesse être pris par l'idée que nous construisons sans cesse quelque chose de neuf. Mais nous avons bien un héritage, c'est ce que j'appelle l'imaginaire du peuple dans lequel on se trouve inséré. Un certain type de rapport au réel, une certaine façon de ressentir des émotions, de penser, de créer, de faire de la musique. On y reviendra sans doute tout à l'heure sur la musique française et les autres, mais aussi d'innover. Bon, et donc cette phrase dit que les Français ont un héritage, ils viennent, comme tous les autres peuples, de quelque part, ils ont un imaginaire, mais justement, la singularité française, c'est que cet héritage n'est pas précédé de testament. C'est-à-dire que, pour se relier, les Français ont sans cesse besoin
de le réinventer,
de le réinventer au travers de disputes communes, de confrontations, de conversations, de chocs, on le voit au moment des Gilets jaunes, par exemple, de sorte que c'est la perspective commune du futur et pas le passé, contrairement par exemple à nos amis allemands, et Schubert et les musiciens allemands vont souvent chercher dans les origines, dans les vieilles chansons populaires, de quoi inspirer ce qu'ils sont. La musique française, c'est tout le contraire. C'est la légèreté. C'est l'idée que la légèreté seule peut assembler la diversité qui nous est consubstantielle, et ce qui fait que nous sommes de très bons créateurs, innovateurs, nous avons beaucoup de très bons chercheurs, que nous avons la meilleure industrie du luxe, nous avons la meilleure école de mathématiques au monde, justement parce que pour nous assembler, nous devons sans cesse être en petit décalage avec le réel et surtout en construisant un avenir commun plutôt qu'en référant à un passé ontologique.
C'est le politologue Stéphane Rosès qui est l'invité de Musique et moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein ?
Dessine-moi un mouton.
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement.
Un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, interprété par Gérard Philippe. Gérard Philippe qui fait partie visiblement, Stéphane Rosès, des personnages de votre enfance. Comment écouter de la musique avec une voix qui vous guide? Parce que je crois qu'il y avait aussi Pierre et le Loup.
Oui, absolument. Il y a quelque chose dans la voix de Gérard Philippe, dans sa personne, dans sa vie même, dans sa façon d'interpréter, évidemment, il y a une sorte de grâce qui mêle au fond l'animus et l'anima, quelque chose qui vous transporte au fond ailleurs. Et ça, évidemment, c'est une des premières choses que j'ai entendues, petit garçon, de sorte que j'ai toujours beaucoup d'émotions, voire de frissons, en réécoutant cette forme retranscrite de ce livre de Saint-Exupéry, dont Heidegger disait que c'était pour lui le livre le plus important du XXe siècle. Et c'est ça qui est tout à fait incroyable chez Saint-Exupéry, au fond, c'est qu'il ait pu écrire quelque chose de si universel. Et donc, il y a une sonorité dans la voix, il y a les silences, et tout de suite, on est transporté. Alors, le livre transporte par les espaces. La voix impose quelque chose de supplémentaire, mais au fond, le texte est tellement merveilleux que on est là encore dans des sentiments, des représentations, et puis sans doute ce petit garçon qui accède au monde adulte, ou cet adulte qui comprend la part du petit garçon qui sommeille en lui. Au fond, c'est le mouvement de la vie.
Mais vous qui l'avez entendu, Stéphane Rosès, interprété enfant par Gérard Philippe, quand vous vous êtes emparé du livre, est-ce que vous avez ressenti un décalage? Est-ce que vous avez entendu la voix de Gérard Philippe qui interprète magistralement?
Alors oui, effectivement, ça a été un peu différent. C'est-à-dire que quand j'ai d'abord écouté la retranscription sonore de Gérard Philippe, j'étais dans l'onirisme. C'était plutôt le petit garçon que j'étais qui se disait que le monde adulte était quand même un monde très mystérieux et se retrouvait dans le Petit Prince au fond. Les traits de fulgurance du Petit Prince sur ce qu'est le monde des adultes m'aidaient au fond à envisager ce monde adulte qui m'entourait. La lecture du Petit Prince et surtout la relecture. Ouais. M'a fait comprendre, au fond, pourquoi, justement, Heidegger avait pu dire que c'était le livre le plus important du siècle. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui m'a permis d'accéder à tout l'arrière-fond qu'il y avait derrière le caractère onirique. J'ai compris qu'effectivement, c'était un livre de pensée, un livre de philosophie sur le rapport à l'autre, le rapport à la nature, le rapport à la mort, à la disparition. Et au fond, je me suis dit que Saint-Exupéry était un écrivain immense.
Thank you.
l'ouverture de Don Giovanni de Mozart, interprétée par l'orchestre et le chœur du Théâtre National de l'Opéra de Paris, sous la direction de Laurine Mazel, qui a dirigé d'ailleurs aussi la musique du film de Joseph Losey, avec Ruggero Raimondi, Kirite Kanawa, Teresa Berganza, José Van Damme, Kines Riegel, qui sont, je crois, Stéphane Rosès, les premiers émois musicaux de votre enfance.
Oui, et précisément... le fait que tout d'un coup, j'aime l'opéra. C'est-à-dire que pour moi, l'opéra, bon, je veux pas, j'espère que certains auditeurs vont pas être fâchés, mais c'était l'opéra italien que je trouvais à l'époque un peu pompier, grandiloquent. Et puis, je vais au cinéma en me disant, tiens, c'est bizarre, ça a dû être un des premiers films opéra comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et là, tout d'un coup, je connaissais évidemment Mozart, j'adorais, mais là, tout d'un coup, je comprends que l'opéra, c'est la vie, quoi. C'est du théâtre plus de la musique, et puis une musique là, en l'occurrence, extraordinaire. Et puis, je vois ce Don Juan qui représente l'idée de la liberté de l'homme jusqu'au scandale, mais au fond, à la fin, avec la statue du commandeur, c'est l'homme moderne et qui prétend sortir des textes du sacré, des convenances du moment, et c'est un personnage tout à fait démiurgique, enfin, tout à fait étonnant, mais surtout, bah, concrètement, c'est que à partir de ce film, je trouve que l'opéra, c'est génial.
Donc là, on n'est plus exactement dans l'enfance, j'imagine.
C'est un peu après, c'est l'adolescence. Oui, absolument.
Mais alors vous avez grandi dans quel milieu, Stéphane Rosès? C'était un milieu où on écoutait beaucoup de musique?
Alors, je suis le milieu de la bourgeoisie catholique, assez traditionnel, mais j'avais une arrière-grand-mère qui était une cantatrice, qui avait connu Saint-Saëns, Fauré, et ma mère a fait du piano, elle a passé par le conservatoire, et elle est titulaire de l'orgue de Cadaqués en Catalogne espagnole, qui est le plus vieil orgue baroque. Ouais. D'Espagne, et donc c'est vraiment une musicienne chevillée au corps, bon pied, bon œil. En Espagne, oui, parce que mes parents avaient fait construire une maison au début des années 60 là-bas, donc elle est devenue quasi une catalane, et portée au fond par la musique. Et mon grand drame au fond, ma grande peine, c'est moi-même de ne jamais avoir été un musicien.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et comment se fait-il que vous n'ayez jamais appris la musique, Stéphane Rosès, ou pratiqué, ou...
Bah, c'est un peu de ma faute, ou la faute des enseignants, je sais pas, mais j'ai fait un peu de piano à Paris, mais c'était l'école française, je dirais, c'est-à-dire que... alors, je devais sans doute pas être très très doué. J'étais un peu rêveur. Je me souviens que, par exemple, j'étais revenu de l'école, j'avais oublié mon sac à l'école. Donc, j'étais un petit garçon, j'étais quelqu'un un peu ailleurs. Ça a changé depuis, je crois. En tout cas, professionnellement, ça a dû. Mais j'avais fait un an ou deux ans de piano. J'étais un petit garçon. Mais c'était, grosso modo, fallait apprendre le solfège pour faire ensuite des petites mélodies. Et avec une professeure un peu prussienne, française, au conservatoire, quoi.
On commençait par... Un peu autoritaire.
Voilà. Il fallait commencer par la discipline pour ensuite accéder aux choses gentilles, mignonnes, agréables, hein, comme s'il fallait sans cesse un peu peiner avant d'arriver au bonheur et à la joie. Donc, à ce régime qui était un peu difficile pour le petit garçon que j'étais, je crois me souvenir avoir fait des pieds et des mains. Je sais plus si c'est au bout d'un an ou deux ans, mais sans doute un an. Je ne dois pas être si résistant que ça pour arrêter tout ça. Et bon, maintenant, voilà.
Mais la musique vous a pris.
Alors, la musique m'a pris parce qu'il y avait, avec ma mère, il y avait de la musique. Elle était institutrice avant d'être directrice d'école et elle faisait écouter à ses enfants de la musique pygmée. Donc, c'était musique pygmée, Stockhausen et tout ça. Et en dépit de ce régime de bagne, néanmoins, il y avait la musique classique habituelle comme dans ce genre de milieu. Et au fond, c'est un peu après que je suis revenu à la musique, et notamment ça m'a accompagné dans mes années de pension à partir de la sixième.
Samson François interprète l'adagio assai du concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel, qui est un souvenir, je crois, Stéphane Rosès, lié à l'adolescence, hein, enfin un émoi amoureux, on pourrait dire. Hein.
Oui, bon, fugace. Oui, fugace. Non, mais je connaissais le morceau, et puis je partais avec deux, trois amis faire une retraite chez les bénédictins à Hautecombe, et on fait une halte chez un de ses amis. Voilà, il avait une jeune sœur qui faisait de la danse classique, et elle avait mis pour nous tous ce morceau. Mais au fond, au-delà...
Elle a dansé dessus ?
Non, elle n'a pas dansé, mais j'avais repéré qu'elle était gracieuse. Moi, j'étais un peu pâteau, puisque j'étais en pension. Pour moi, la jante féminine, c'était dans les romans russes de Tolstoï.
Donc c'est quand même marquant.
Voilà, oui, c'est marquant, mais c'est à ce moment que me fait penser Ravel, Samson François. Et puis, c'est de façon générale le fait que très vite, j'ai eu une passion pour la musique française, Ravel, Debussy, mais aussi Forêt, Saint-Saëns. Et puis, ce n'est que sur le tard que j'ai compris que Rameau me faisait comprendre ce qu'était le génie français et notre imaginaire, c'est-à-dire une forme d'accès à la légèreté pour rassembler l'extrême diversité qui est la nôtre depuis les origines, où il y avait des Celtes, des Latins, des Germains. Et donc notre façon de créer, c'est toujours un écart au monde, c'est jamais prosaïque, c'est toujours comme ça, ce côté absolument aérien qui fait la marque de notre musique. Et puis évidemment, Samson François, on écoutait beaucoup Samson François parce que on n'imagine pas ce qu'a été Samson François de l'époque de son vivant. Moi, quand je nais, c'est déjà, enfin, je l'ai pas connu, mais ma mère et la génération de mes parents étaient très marquées par Samson François, sans doute notre plus grand pianiste avec Cortot, un être absolument charismatique, flamboyant, touchant dans ses excès. Bon, il était ce qu'on a appelé un homme à femme, mais ses excès, il me brûlait la vie par les deux bouts, comme on disait, mais ça a été un pianiste, au fond, immense.
Pour en revenir à cette retraite, enfin cette halte pour aller faire votre retraite chez les moines bénédictins, Stéphane Rosès, vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous êtes croyant ?
Maintenant ?
Oui.
Je ne sais pas très bien. Oui, j'étais, quand j'étais jeune, retraite chez les bénédictins, scout, enfant de chœur, animateur, jeunesse à la chapelle des Jésuites à Paris. Et puis ensuite, je passe des cellules bénédictines aux cellules trotskistes pendant une décennie. Et maintenant, au moment actuel de la vie, oui, Je me suis longtemps défini comme un pratiquant non-croyant, où j'aime bien la phrase de Houellebecq, « Dieu n'a pas voulu de moi ». Au fond, je suis évidemment dans une quête, et il y a un musicien, on y reviendra tout à l'heure, qui, quand je l'écoute, me fait penser que décidément je suis croyant. Mais oui, je ne me résous pas à l'idée que il n'y aurait pas quelque chose au-dessus de nous qui nous permette d'accepter notre condition humaine.
Thank you. Concerto brandebourgeois numéro 5 en ré majeur de Jean-Sébastien Bach dans son mouvement Allegro, interprété par Gustave Leonhardt et son ensemble. Alors, c'est un souvenir musical. Vous parliez tout à l'heure, je crois, Stéphane Rosès, d'un compositeur qui accompagne ces questions métaphysiques. En tout cas, c'est un compositeur qu'on va beaucoup entendre, Jean-Sébastien Bach, au cours de cette émission, puisque je crois qu'il est très, très, très important dans votre vie.
Ah oui, 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 depuis mes années de pension. D'ailleurs, au départ, Bach et Gould sont tout à fait associés, mais avec le temps, c'est évidemment Bach. Alors, il y a toujours une part de mystère, on en parlait tout à l'heure hors micro, de fait, qu'est-ce qui fait que un musicien vous touche? Qu'est-ce qui fait que telle interprétation, selon le moment de votre vie, va vous toucher plutôt que telle autre? Les évolutions. Mais au fond, pourquoi cette passion pour Bach? Peut-être, s'il fallait rationaliser les choses, parce que Bach construit sa musique dans une dialectique entre une construction mathématique je le formule comme ça un instant, je n'y avais pas pensé avant, une formalisation très mathématique du contenant et une légèreté dans le contenu, c'est-à-dire au fond la forme de la vie. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup ça dans Mozart. Alors, ce qui donne chez Bach, qui était un prosélyte, hein, attention, il faut se méfier de Bach, parce que il voulait ramener les brebis à Dieu, et au fond, son écriture contrapuntique, comme chez Pascal, c'est une façon peu à peu d'amener l'auditeur à une élévation.
Marche, en tout cas,
oui. Voilà, absolument. Donc, il y a un propos construit, mais au fond, reste un compositeur incroyable qui, je parle sous votre contrôle, à son époque, apparaissait déjà un peu comme vieillot, mais qui pourtant regardait tout ce qui se passait à son époque, était très inspiré, notamment la musique italienne, mais aussi française, anglaise, enfin bon, à l'époque, au fond, l'Europe, c'était ça, quoi. C'était des musiciens qui se baladaient. Bon, parce qu'il y a un génie européen qu'il faut repérer, protéger, rendre grâce. Et Bach, là-dedans, c'est... Oui, pour moi, je vous disais, des fois, j'entends Bach. Et bon, là, je me dis très certainement que Dieu doit exister. Il ne me répond pas jusqu'à
il
maintenant.
Il est fort, alors,
mais...
Bach, il est prosélyte, il a réussi.
Oui, même pour quelqu'un comme moi, il m'a transformé. Mais en tout cas daté en agnostique après une période effectivement d'éducation très religieuse.
Et là, le concerto brandebourgeois, c'est un moment très particulier.
Ah oui, alors c'est très drôle. En 2016, je dois subir une anesthésie pour une opération de la mâchoire et l'infirmière anesthésiste, très très jeune, très guirette, me demande si au moment où je vais être endormi, je veux écouter un morceau de musique. Alors, spontanément, je dis évidemment Bach, et elle a dû aller à son appli, parce que c'était son portable, l'appli, ça tombe sur les concertos brandebourgeois, et au fond, ça me convenait assez, même si c'est pas de Bach ce que j'écoute le plus. Thank you.
L'invention numéro 6 en mi majeur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Gustav Leonhardt. On était en train de parler de Bach, on l'écoutait tout à l'heure, Gustav Leonhardt, dirigeant le concerto brandebourgeois. Là, il est au clavecin. Vous disiez que votre passion pour Bach était née avec Glenn Gould. Gustav Leonhardt fait partie de ces interprètes que vous avez su écouter.
Oui, alors je crois comprendre l'implicite de votre question. Oui, j'ai commencé avec Gould, et d'ailleurs c'est la question des interprétations. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'adorais Gould. Par exemple, si on prend les Goldberg, sa première interprétation plutôt que la seconde, j'adorais les cantates, j'adorais la messe, les passions. Bon, et puis après le cancer. Je suis venu à quelque chose de beaucoup plus épuré et de moins flamboyant. Or, il ne m'a pas échappé qu'il y avait un débat d'école entre Gould et Leonhardt, et d'ailleurs du côté de Leonhardt, par exemple, Saltov-Saf, Richter, sur l'idée, l'interprète est-il au service du compositeur, ou l'interprète peut-il se donner une certaine liberté, se libérer, qu'était la position de Gould. Bon, et évidemment, Leonhardt, le protestant, est un rigoriste du respect en termes de type d'instrument de musique ancienne et de cette idée d'aller à l'origine, à la vérité de Bach. Bon. Et au fond, je trouve les interprétations de Leonhardt et le personnage de Leonhardt très inspirant et je respecte beaucoup, au fond, son assaise. Mais voilà, je suis un peu en tension, je dirais.
C'est pas encore complètement acquis.
Non, c'est pas acquis. Il y a une tension en moi entre l'hédonisme et le rigorisme et au fond, les deux extrêmes en sont Leonhardt et Gould.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
C'est amusant, Stéphane Rosès, parce que je peux relier ça complètement à cette question qui me taraude, évidemment, de me dire qu'un enfant chrétien qui va chez les bénédictins, qui devient tout d'un coup d'extrême gauche, puis politologue, on est un peu dans ces mêmes tensions, là.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand je suis passé des engagements chrétiens à l'engagement trotskiste, je référais à tout un tas de ruptures épistémologiques pour reprendre Althusser, pour montrer en quoi tout ça n'avait rien à voir. Si je suis lucide, le temps aidant, je vois au contraire les continuités derrière les apparentes ruptures. La continuité, c'est que si on est chrétien, c'est qu'on croit à l'égalité dans l'amour de Dieu et on est universaliste. Si on est trotskiste, on est internationaliste et au fond, on souhaite tout simplement établir le royaume des cieux ici et maintenant. Alors, ça peut apparaître choquant, mais en tout cas, pour moi, c'est la cohérence. Et très clairement, mes années d'engagement trotskiste étaient des engagements bénédictins où j'étais
au service de la cause commune.
Voilà, j'étais au service de la cause commune et tout ça comme des formes momentanées, mais ça a duré un certain temps, d'oubli de peut-être ce que j'étais moi avec un grand M et qu'il ne faut jamais oublier et qui s'est rappelé à moi dans ma vie sur le tard, justement parce qu'il fallait passer des épreuves, la perte de mon père dans des conditions difficiles quand j'étais justement adolescent. Donc au fond, toujours c'était une même quête de dépassement dans du collectif pour aider le moi que j'étais par en dessous à survivre, et avec le temps, le moi est revenu.
Et le politologue dans tout ça?
Alors le politologue, c'est le souci et le goût de comprendre le monde dans lequel on se trouve.
On sort de l'idéologie, on prend du recul et on observe.
Absolument. C'est-à-dire, pendant quelques années, je continuais à avoir un engagement politique, mais j'étais schizophrène. J'ai travaillé de Philippe de Villiers au Parti communiste. J'ai travaillé pour 3 présidents de la République, 16 candidats à des présidentielles. Et donc, il y avait clairement d'un côté mes engagements de citoyen, bon, et puis de l'autre, mon engagement professionnel. Mon seul engagement aujourd'hui, c'est d'essayer de bien comprendre ce qui se passe, de sorte d'alerter à la fois les Français et ceux pour qui je peux travailler confidentiellement sur le cours des choses. Et je suis facilité en cela que je pense que ce sont les peuples qui font l'histoire. Je pense que c'est la nation qui fait les gouvernants. Je pense comme Hobbes que le souverain doit interpréter le spectacle du peuple. Et quand les choses dysfonctionnent comme aujourd'hui avec les gilets jaunes, c'est que le souverain a semblé oublier qui l'avait fait monarque républicain.
It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night. Since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you.
Chanson de Prince interprétée par Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Vous êtes bien sur France Musique jusqu'à 12h30 en compagnie de Stéphane Rosès, invité de Musique et Moi. Et cette chanson, on est bien sûr loin de Bach et de la musique classique, elle est attachée à un moment précis de votre vie.
Ah oui, absolument, un moment très précis. Pendant très longtemps, j'ai énormément travaillé de jour, de nuit, 15 heures. Bon, et là, j'étais sondeur, donc je dirigeais un département opinion avant de diriger un institut de sondage, et j'allais faire une présentation devant le conseil régional Nord-Pas-de-Calais. À l'époque, je crois que c'était Michel Delbar qui le dirigeait, et comme souvent, par la force des choses, dans ma chambre d'hôtel à Lille, je travaillais dès mon arrivée jusqu'à normalement 2-3 heures du matin avant de présenter tout ça, je ne sais pas quoi, 9 heures du matin. Et donc j'étais à mon bureau et là je me concentre, je travaille, mais je commençais à fatiguer un tout petit peu, et donc j'avais mis, je crois que c'était M6 qui diffusait en boucle
donc
la nuit
télévision.
Des musiques. Voilà, mais je ne voyais pas la télévision, j'entendais le son à bas bruit, et tout d'un coup j'entends le début de la chanson, et je suis frappé par la voix, le ton, la mélodie, la voix, et puis je regarde, je vois cette chanteuse, j'allais dire cette cantatrice, dans un jardin italien, je crois, et je me souviens là que ça arrive à me déscotcher de mon travail. Je m'assois sur le lit, je regarde l'ensemble du clip musical et je me souviens que j'étais tellement saisi à la fois par la beauté de la musique et de la voix, je dois dire sans doute également la beauté
physique
de Sinéad O'Connor, qui, je me souviens, elle était rasée. Bon, elle a connu dans sa vie des moments, je crois que le moment actuel est folklorique, mais en tout cas à l'époque elle était comme ça, et là je m'en souviens encore, hein, c'est-à-dire les moments musicaux qui vous ont marqué, il y en a énormément dans la vie, mais je me souviens de ce moment, genre 2-3 heures du matin, où je suis absolument abasourdi et avec une musique qui arrive à me déscotcher de mon travail, et je dois dire que j'ai réécouté l'interprétation de Prince, qui est très différente, mais qui est aussi absolument incroyable.
C'est moins formel,
Prince,
entre guillemets.
Oui. C'est moins formel, mais Prince était vraiment un génie, quoi. Il y a eu quelques génies. Jackson était sans doute un génie aussi, mais Prince est absolument incroyable.
Mais j'aime bien le lien qu'on peut faire, le pont qu'on fait ce matin entre toutes ces musiques qu'on écoute depuis le début de l'émission avec Bach omniprésent et cette chanson contemporaine qui est classée dans ce qu'on appelle la variété et qui vous saisit. Est-ce que vous arrivez à voir à quel endroit peut-être ça vous touche de la même manière ?
C'est un peu difficile. La mélodie, oui, mais au fond, la mélodie me semble assez classique. Et au fond, je parlais tout à l'heure de Bach dans l'articulation entre le formalisme contraint et la spontanéité qui s'y déploie. C'est quoi un clip musical ? C'est arriver à faire ressortir les émotions au fond de soi dans un temps qui est très limité, sous contrainte. Et là, ce clip, pour moi, enfin, je le vois encore, hein, je l'ai revu depuis, bien sûr, et j'invite du coup les auditeurs de France Musique à aller le voir.
Cédric Pécha interprète cette fugue pour piano en mi bémol mineur BWV 853 de Jean-Sébastien Bach. Les fugues sont des supports à l'écriture, je crois, Stéphane Rosès.
Oui, absolument, à l'écriture, à la pensée. Moi, je me suis là, le clavier bien tempéré pendant très longtemps et encore maintenant, quand je suis dans un travail d'analyse ou d'écriture, ça m'aide et il y a le caractère régulier, un peu minimaliste, très belle interprétation, merci. Je ne connaissais pas Cédric Pécha et je trouve que c'est une très belle interprétation et ce clavier bien tempéré qui alterne des préludes et des fugues, bon, bah, c'est le mouvement de la pensée. Si on est d'accord sur l'idée que le prélude, c'est partir de la spontanéité pour aller au resserrement et que la fugue, c'est le processus inverse.
C'est le développement
du resserrement et le développement, absolument. Et au fond, pour nous approprier le réel, c'est le mécanisme de la pensée. Pour nous approprier le réel, nous sommes armés de récits, de fictions, de représentations, plus ou moins structurées, plus ou moins denses. Et puis, on aborde la réalité des choses qui est éparse. Et ensuite, le contact avec cette réalité des choses qui est éparse va encore plus resserrer notre pensée. Et c'est un mouvement perpétuel que de se déployer dans le monde avec une pensée qui elle-même ensuite est éprouvée par le monde lui-même. Hein. Tout ce travail de friction, au fond, c'est ce que chacun dans nos métiers nous faisons.
C'est le travail du sondeur aussi, évidemment.
Alors, oui, bien sûr, parce que le sondeur, mon métier antérieur, avant que d'être conseil, mais au fond, le sondeur, c'est celui qui comprend le problème du client, qui va mobiliser des outils d'études, il a une petite palette d'outils d'études, il va recueillir quelque chose et ensuite il va interpréter ce quelque chose. La question de l'interprétation, c'est le point en commun entre la musique, la psychanalyse, mon travail, le travail du traducteur qui doit passer d'une langue à une autre, donc d'une culture à une autre. Bon, évidemment, le comédien, et moi j'ai un grand respect pour les artistes, et c'est de traduire d'émotions en idées. Par exemple, en théâtre, je suis très classique. Je me méfie des gens qui se disent qu'ils ont des messages à faire passer, parce que toute la grandeur du théâtre, et notamment le théâtre français, c'est de partir des émotions pour aller aux idées, et non pas l'inverse.
Thank you.
Igor Stravinsky interprète ce sacre du printemps dans sa danse sacrale composée par Stravinsky. Donc, il est l'interprète de son œuvre ici. On parlait d'interprète à l'instant, Stéphane Rosès. L'interprète, enfin le compositeur qui interprète son œuvre, là aussi, il y a quelque chose de magique.
Oui, il y a quelque chose de magique, effectivement. Il faudrait sans doute pas que les interprètes ensuite, ultérieurs, se sentent bridés par quoi que ce soit, mais au fond, il y a l'esprit au départ. Et puis, l'œuvre ensuite prend son envol. C'est-à-dire qu'elle est appropriée dans des endroits différents, à des moments différents par d'autres, et c'est ça qui est de merveilleux. Chez l'être humain, il n'y a aucun être humain qui ressemble à un autre. Eh bien, sur les interprétations, c'est absolument pareil, et du coup, l'interprète se doit de respecter. Alors là, vous disiez hors antenne que les choses étaient assez cadrées chez ce sacre du printemps, que j'ai mis du temps à apprécier, finalement. Bon, mais
pourquoi ensuite...
Oh ben parce que je suis un conservateur, quoi. Il faut bien le dire, je n'en ai plus honte. Et je peux le dire maintenant, culturellement, je suis un conservateur. Alors, politiquement, je suis un libéral au sens de la tolérance, de la dispute que j'accepte.
De la nécessité de débattre.
De la nécessité de débattre, et c'est notre façon de nous assembler, c'est la dispute. Parce que derrière la dispute, si on se dispute avec quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose à faire avec lui. Mmh. Et c'est comme ça qu'on est français, qu'on s'assemble. C'est pour ça que les Français ont un problème avec les signes religieux extérieurs. C'est qu'ils imposent au loin l'impossibilité de se disputer, puisque de l'extérieur, on dit que quelque chose, on ne pourra pas discuter de quelque chose. Donc, je suis un libéral, pas du tout au sens économique, mais au sens premier du terme, qui est le fait d'accepter que l'autre ait une parole différente de la mienne. Alors, au plan économique, je suis plutôt plus, je sais pas quoi, social-démocrate. Enfin, je suis attentif aux questions d'égalité et de lutte contre les injustices. Mais au plan culturel, je suis très conservateur. Et donc, pour moi, Stravinsky, ça a été longtemps dur. Hein. Maintenant, j'accède à Shostakovich, mais faut guère me pousser au-delà. En tout cas, pas la musique sérielle, pas Stockhausen, Pierre-Henri, bon, Messiaen, quelques trucs de Messiaen, enfin bref, voilà, j'ai pas encore, je me suis pas encore approprié tout ce que j'écoutais chez mes parents et ma mère quand j'étais un petit garçon.
Il reste encore quelques belles années pour y aller.
J'espère.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Eh bien, on va retourner avec Bach. Bach est une cantate qui compte pour vous. C'est la cantate Ich habe genug.
Oui, en fait, Elsa, si je suis tout à fait honnête, et c'est le temps de l'être, il y a plein de cantates que j'adore. Celle-là, en particulier, il y a les cantates pour basse. Et surtout, il y a une anecdote, je ne sais pas si je vous la raconte tout de suite. Je regarde un documentaire sur Arte, sur les ouvriers en Allemagne de l'Est. Et on voit une ouvrière qu'on suit dans le vestiaire, vous savez, avec des portes en métallique. Elle ouvre son vestiaire, elle sort une sorte de radiocassette, elle met une cassette en disant « Voilà, c'est mon morceau préféré » et c'était comme elle, ma cantate préférée, la cantate 82, et j'ai trouvé merveilleux de pouvoir communier avec cette ouvrière de l'Allemagne de l'Est sur notre cantate préférée, parce qu'on la voit s'asseoir sur le banc de bois et dans son heure de pause de travail, écouter cette cantate.
Thank you. Thank you.
La cantate Icha Begonoug, interprétée par Philippe Jarouski, de Jean-Sébastien Bach, bien sûr, la cantate BWV 82, qu'on pourrait traduire par « J'en ai eu assez, Icha Begonoug, je suis comblée ».
Oui, alors justement, c'est très ambivalent. Bon, au départ, c'est la musique merveilleuse de cette cantate qui m'a touchée. Et puis ensuite, effectivement, quelle est la signification exacte de Icha Begonoug ? Selon certains, c'est « j'en ai assez ». Bon, et alors là, évidemment, ça me touche, puisque mon père avait décidé de quitter cette vie, mais il me plaît à penser que c'est l'autre interprétation, plutôt « je suis comblé ».
J'en ai eu suffisamment.
Voilà, j'en ai eu suffisamment, c'est-à-dire, bon, ça y est, j'ai fait le tour des choses, s'il fallait d'ailleurs, si c'était possible, et je suis résolument sur ce versant optimiste.
Mais ce qui est intéressant avec vous, Stéphane Rosès, ici, et si c'est votre cantate préférée, votre cantate de chevet, c'est de se dire que précisément, selon le sens qu'on y met ou pas, cela vous renvoie de toute façon à votre histoire.
Oui, absolument, ça résonne. Il y a une résonance. Au départ, on voit c'est comme en amitié ou en amour, ou qu'on est séduit par une œuvre. En général, on ne voit pas forcément très bien pourquoi il y a résonance. Et il y faut peut-être un peu de temps, tout simplement. Il ne faut pas être pressé.
Au fond, vous êtes devenu un pur et strict épicurien, si je vous écoute, Stéphane Rosès.
Oui. Ah ben, non, mais il y a aussi cette dimension, contrairement éventuellement aux apparences, mais oui, absolument.
En tout cas, merci d'être venu partager cette heure et demie avec nous.
Merci à vous.
Vous qu'on entend toujours parler de beaucoup, en tout cas, de ce qui se passe actuellement, notamment dans le pays. C'est très agréable de vous entendre parler de musique aussi.
Merci de votre invitation.
On va se quitter sur un air que vous chantez uniquement dans votre douche.
Oui, parce que mes proches m'ont absolument demandé de ne pas chanter, car ils savent à quel point je chante mal. Mais là, vous verrez, c'est tout à fait possible et c'est très beau et c'est Mozart.
Vous faites un duo à vous tout seul, alors.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Stéphane Rosès.
Non, mais oui, c'est de reconnaissance entre Papageno et Papagena. Et si on chante de la même façon, c'est qu'on est fait pour s'accorder, effectivement.
Merci beaucoup. Sabrine Terfel et Cecilia Bartoli interprètent le duo Papagena-Papageno de la flûte enchantée de Mozart. Pour terminer cette émission en compagnie ce matin de Stéphane Rosès, politologue, et la belle équipe qui était autour de cette émission, c'est Stéphane Touvenin à la prise de son, Sophie Pichon, réalisation, Marie Ferdinand, attachée de production. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Martin Penet pour Tour de Chant. N'hésitez pas à aller sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi pour trouver toutes les informations concernant cette émission. Très beau dimanche à l'écoute de France Musique.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.